Vous écoutez France Musique.
Bonjour à tous, bienvenue dans le magazine jusqu'à 13h40. Nous sommes ensemble pour parler de plein de choses actuelles et inactuelles, et en particulier d'un certain Friedrich Nietzsche. Bonjour Georges Libert.
Bonjour Lionel, c'est par
ça. Nietzsche et la musique, ça a reparé au pu, ça fait presque 20 ans, enfin j'exagère, 17 ans qu'il est paru originellement, ce livre-là.
Oui.
Est-ce que vous l'avez repris beaucoup, un petit peu complété?
Un peu corrigé, ouais. Mais il était arrivé à l'épuisement. Et donc, comme nous sommes à la veille du bicentenaire de Wagner, l'éditeur a trouvé judicieux, et moi-même, de le rééditer.
Lorsqu'on est Nietzsche, hein, rassurez-moi, Georges Libert, on l'est toute sa vie, hein, c'est pour ça qu'on peut le reprendre 20 ans après.
Oui, oui, c'est un compagnonnage depuis la classe de philo.
Ah oui.
Voilà. Wagner, est, au même moment, j'ai connu les deux.
Ouais. C'est des passions d'adolescence, toujours. Comment? Cela. Hein, c'est des passions d'adolescence.
Oui, mais qui sont restées des passions de la maturité.
Ouais. Paolo Diorio, bonjour à vous.
Bonjour.
Un autre Nietzsche qui est paru, lui, il y a 4 mois, c'était cet été, Le voyage de Nietzsche à Sorrente, aux éditions CNRS. Il faut préciser, rappeler qu'en 1876, Nietzsche a quel âge, 32 ans, c'est ça?
Ouais.
Il fait son premier voyage d'Italie. Et ce sera une sorte de grande épiphanie, on va dire, hein, pour reprendre vos termes à vous.
Oui, c'est une métamorphose surtout, parce que Nietzsche entame la réflexion sur la philosophie de l'esprit libre, et il accomplit un éloignement de Wagner, mais il accomplit parce qu'il avait déjà commencé avant. Et il dira plus tard que le livre qu'il va écrire à Sorrente, Les choses humaines trop humaines, mais il faudrait plutôt traduire Les choses humaines trop humaines, sera le monument d'une crise. Donc quelque chose qui arrive après la crise et qui rappelle témoigne de cette crise. Donc j'ai essayé de raconter cette histoire.
Ouais, une histoire d'où Wagner, évidemment, est tout à fait présent. On le verra là, d'abord parce qu'ils se croisent à Sorrente, et puis parce que le souvenir de Bayreuth reste dans la mémoire de Nietzsche pendant toute cette période-là. Alors vous l'aurez peut-être compris, ou peut-être pas, puisque contrairement aux apparences, Georges Libert est presque plutôt wagnérien, et Paolo Diorio plutôt nietzschien, donc il faudrait peut-être quelqu'un pour en quelque sorte les arbitrer. Ce sera David Grimal, bonjour à vous.
Bonjour.
Je vous oblige à venir d'une émission avec Nietzsche au programme, ça vous dit quelque chose? Ça dit quelque chose aux jeunes adolescents que vous êtes restés?
Voilà, ça dit quelque chose, oui, ça me rappelle moi aussi ma classe de philo. Ouais. Mais j'ai été une étoile furtive en philosophie, puisque je me suis arrêté après le bac, ce qui ne m'empêche pas de garder quelques souvenirs émus de Nietzsche. Et surtout de cette approche peut-être particulière qu'il a, qui est toujours conduite par sa sensibilité et par son humanité, ce qui parfois, le manque de ces deux valeurs amène de nombreux philosophes dans des impasses. Donc lui, il va plutôt vers la lumière, c'est pour ça qu'on en est tous proches, je pense.
Et qu'on l'aime tous, bien évidemment. Les dissonances seront aussi au programme de notre émission en dernière partie. Allez, on va commencer en illustrant par du Nietzsche, évidemment, puisqu'on se souviendra qu'il a composé, et même plutôt pas mal.
Ich möchte lassen diese glanzumspielte Welt, in der ich Lust und Ehre ringsum sponnen hält, und möchte fortziehen. Horchen auf den
Dietrich Fischer-Dieskau chantait ici, avec à ses côtés Ribert Reimann, ce Lied de Friedrich Nietzsche, Narrspiel, on traduit par épilogue. Je voudrais quitter ce monde rutilant et vain, je voudrais fuir loin des hommes. C'est quelqu'un qui n'aime pas la multitude. Musique de Nietzsche, donc, est parmi les meilleurs dans ce qu'on vient d'entendre ici. Georges Lieber, c'était un bon compositeur, Nietzsche, dans l'ensemble?
Non, c'est pas dire ça, un très bon compositeur. Comme son alter ego détesté Rousseau, ça l'a beaucoup occupé.
Ouais.
Mais ce que nous avons entendu là est sans doute ce qu'il a composé de mieux. Il faut préciser que c'est sur un poème d'un poète hongrois, Andor Petőfi. En même temps, il ne faut pas s'abuser sur la réussite. L'accompagnement au piano est...
Oui. Minimal. Hein.
Minimal. Mmh. La ligne mélodique fait penser à Schumann. Et puis, n'oublions pas que dans l'Allemagne de ce temps, tous les jeunes gens portaient au lyrisme et frottaient de musique, composaient des leaders, comme un peu en France à la même époque, les jeunes gens portaient sur le lyrisme et la mélancolie, composaient des sonnets. Mmh. Donc c'était une sorte de sport national. Ma foi, c'est assez réussi. Et c'est ce qu'il a fait de mieux, et je crois... Il y a d'autres leaders. Il y a d'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés dans les archives de cette maison, un récital par Irma Colassi leader de Nietzsche.
Alors si il est lié à la musique, Nietzsche, c'est aussi parce qu'il est lié à toute une tradition allemande. Vous le rappelez bien au tout début de votre livre, hein, il y a cette tradition musicale luthérienne, il a vraiment les pieds là-dedans.
Mais il est issu d'une famille de pasteurs où traditionnellement la musique faisait très bon ménage depuis longtemps avec la théologie. Et son père était lui-même musicien, donc il a baigné dans le monde des sons très tôt et il a dit lui-même que c'était son monde originel et le plus vrai. Donc, à Naumbourg, il allait assister à des petits concerts. Il y avait pas mal de musique de ce qu'on appelle en Allemagne « house music », n'est-ce pas ? Et il pratiquait. Et la musique a été peut-être son premier langage.
Ouais.
Celui qu'il jugeait en tous les cas le plus authentique.
Avec, en particulier, l'improvisation. Alors ça, je l'ai retrouvé dans votre livre-là. C'était quelqu'un qui considérait finalement que lui-même était avant tout un improvisateur. Et il savait très bien, comme compositeur, qu'il lui manquait peut-être ce qui permet de faire la grande forme après.
Il n'a jamais réussi à maîtriser vraiment le chaos.
Ouais.
Qu'il le dit lui-même, pour lequel il avait aussi une attirance invincible. Et à la fin de sa vie, nous savons qu'il a sombré dans la folie et qu'il a offert le spectacle à son vieil ami Overbeck, qu'il a trouvé à Turin, d'une sorte de Dionysos pathétique, martelant son piano dans sa chambre, en proie à la folie. Et d'ailleurs, la musique a survécu aux mots, puisque quand il a été interné, il a été mis à l'hôpital, il continuait à composer, à improviser, alors qu'il ne parlait plus. Mmh. Donc le verbe a survécu, le son a survécu au verbe.
Ah ouais.
Comme le son avait précédé le verbe, ou en tous les cas, avait été chez lui l'expression première de sa subjectivité. Donc il a commencé en fils de pasteur, en adolescent très pieux, à composer de la musique religieuse.
Ouais. Et la musique est restée vraiment tout du long, mais c'est même pire que ça. Quelque part, on a l'impression dans ce Nietzsche et la musique que pour vous, la philosophie est une sorte d'excroissance finalement de la musique chez Nietzsche. En tout cas, qu'elle peut être prise comme ça.
C'est-à-dire que la musique, les œuvres de Nietzsche ont cet avantage de nous éclairer sur ce que va être son parcours philosophique.
Ouais.
Et pas seulement son parcours philosophique, mais son parcours stylistique. C'est-à-dire qu'il va... ce qu'il a fait mieux en musique, ce sont dans des genres brefs, des formes traditionnelles. Oui, ça annonce la réussite de l'auteur d'aphorismes. Et il n'a jamais réussi en musique. Il a eu l'ambition de la grande forme. Mais il n'a jamais pu réussir à maîtriser le chaos, comme on le disait tout à l'heure. Et à l'exception de la naissance de la tragédie, livre qui lui a donné beaucoup de peine à écrire d'un seul tenant, Il est devenu célèbre par des recueils d'aphorismes, puisque tous ses livres suivants sont des recueils d'aphorismes.
Paolo Doriot fait...
Généalogie de la morale.
Mais ce sont toujours
des suites aussi de chapitres dont on peut questionner.
Oui, oui. Il avait le plus grand.
Il ne faut pas confondre les paragraphes
et
l'aphorisme. Ce sont des choses différentes.
Lui-même reconnaissait les objections de ses amis qu'il avait le plus grand mal à lier. Comparé à Wagner, dont... L'art suprême était celui de la transition.
Et de la très longue forme.
Romanesque. Donc, par ressentiment, il a voulu voir chez Wagner un miniaturiste avant tout.
Ah oui, d'accord. Pour se rattraper en quelque sorte.
Voilà.
On va écouter un petit quelque chose que vous nous apportez là, Georges Hébert, parce que toute la programmation Nietzsche d'aujourd'hui, c'est de votre discothèque qu'elle est tirée. C'est un miséréré. Alors, rassurez-moi, ce n'est pas le vieux Nietzsche qui composait ce machin religieux, catholique, odieux.
C'est une œuvre d'adolescence où il se souvient, non sans talent, de Palestrina. Ouais. Mais voilà, c'est adolescent, pieux, travaillé déjà par des doutes quelquefois violents, mais qui reste religieux, il le restera d'ailleurs toujours. N'oublions pas que Nietzsche est essentiellement quelqu'un qui pense contre lui-même. C'est un réactif, et d'abord un réactif contre lui-même, c'est-à-dire contre ses pentes, contre ses goûts, contre ses passions.
Son miséréré. Extrait du Miserere de Nietzsche, chanté ici par les membres du chœur de l'université Concordia. Vous me disiez tout à l'heure, quand on préparait cette émission, Georges Liébert, bon, c'est pas terrible, on mettra pas beaucoup, mais c'est quand même pas mal, ça. Un côté madrigaliste, bien.
Mais je dis, se souvenir du talent de Palestrina, pas nul. Il faut préciser que ce sont des œuvres des années, du début des années 60.
Ouais, c'est ça, début des années 60. Il est tout adolescent.
Il est né en 44, février 44. Donc, voilà. Alors, un bon jeune homme.
Oui, qui a du talent quand même, voilà. Qui a une oreille, un musicien, comme on dit. Mes deux invités étaient déjà en train de se chipoter sur des termes quand même. Paolo Diorio, alors il est religieux profondément, Nietzsche quand même, non ? Oui, pour vous ?
C'est un peu comme la musique, si vous voulez. Quand on parle de la musique de Nietzsche, il ne faut jamais oublier qu'il s'agit de musique d'adolescent. C'est quelqu'un de brillant, de très doué, de passionné pour la musique. Il étudie la composition, il étudie les pianos et la composition. Et à un certain moment, il abandonne la musique. C'est-à-dire, il abandonne pas en tant qu'exécuteur, qu'improvisateur, que musicologue, on pourrait dire, qui est passionné de musique, mais il abandonne la composition. Il arrête. Et même quand il reprend à composer une fois pour plus tard dans sa vie, il réutilise des morceaux qui étaient de sa jeunesse. Donc, la musique de Nietzsche s'interrompt. Je me souviens pas l'année précise, mais justement à l'adolescence.
Ouais. Et, ça n'empêche pas qu'il
et
reste...
c'est un peu la même chose pour la religion chrétienne. Ouais. Il abandonne finalement, il est issu de ces milieux protestants, il est comment dire, destiné à devenir pasteur comme son père, comme son grand-père. Et puis à un certain moment, avec scandale, parce que ça provoque une crise dans la famille, il abandonne la théologie. Il s'inscrit la première année à l'université à la théologie, mais il abandonne en faveur de la philologie. Et ça provoque un scandale. Et il renonce à la foi des pères.
Mais ce n'est pas parce qu'il y a des ruptures, Georges Débert, qui ne restent pas comme quelque chose, entre autres sur la musique et puis sur le phénomène religieux aussi. Ça se sent jusqu'au bout quand même,
jusqu'au
non
jusqu'au bout. Ouais. Encore une fois, c'est quelqu'un qui pense contre lui-même.
Oui.
Donc il veut se surmonter. Hein, ça, c'est l'expression nietzschéenne. Surmonter en lui le romantisme, surmonter en lui l'émotion, surmonter.
Il y arrive.
Et il y arrive, mais il n'abandonne jamais ce qu'il a d'abord aimé, puis détesté.
Il n'en refuse pas les paradoxes, en quelque sorte.
Il a toujours cette sensibilité qui lui vient du fait d'avoir pratiqué autrefois. Et donc, c'est une entrée qui lui permet. Nietzsche l'autorise même. Avoir pratiqué autrefois, pour connaître les phénomènes. Vous ne pouvez pas connaître les phénomènes si on reste en dehors.
Mmh. Mais excusez-moi, juste par-delà les langages ou les chemins qu'il a choisis, puisqu'on voit qu'il y a une multiplicité de possibilités qui s'ouvrent à lui, j'ai le sentiment qu'il poursuit surtout l'interrogation métaphysique qui lui paraît être, pour lui, à lui, la plus authentique. Donc peut-être que l'interrogation métaphysique religieuse est périmé pour lui, ne lui parle plus, que l'interrogation métaphysique musicale arrive aussi dans une impasse, et d'ailleurs la musique de Wagner amène toute la musique avec lui dans une forme d'impasse, une forme de révolution à venir. Et moi, ça me fait penser un peu à Schoenberg avec le protestantisme et ses conversions multiples. Enfin, il y a une de trouver sa place, mais dans une continuité qui est quand même l'interrogation métaphysique et l'authenticité de la démarche. Enfin, c'est le sentiment que j'ai.
Ça n'empêche pas que ça reste quoi, tout ça, hein ?
La métaphysique, encore une fois, c'est comme la musique et comme la religion. Il y a un moment où Nietzsche est métaphysicien et puis il abandonne. Il écrit contre Schopenhauer, contre la chose en soi. Il y a des notes quand il était justement à l'époque de son service militaire, et donc en 1868. Et à partir de là, Nietzsche n'est plus métaphysicien. Quand il essaiera de nouveau dans la naissance de la tragédie, il essaiera explicitement pour conduire cette action culturelle avec Wagner. Et il essaiera publiquement, alors que dans ses cahiers, il dit tout autre chose. Il est en contradiction avec lui-même. Et c'est cette scission finalement qui se compose à Sorrente, où Nietzsche retrouve sa formation anti-métaphysique de l'époque de son service militaire, reprend son chemin, abandonne cette phase wagnérienne, ces deux tours métaphysiques dans son chemin, qui n'est pas du tout métaphysique. Nietzsche est
visiblement, on peut discuter là-dessus quand même.
Oui, voilà, c'est un homme de lumière, Nietzsche. Et avec Humain, trop humain, il retrouve cette nature et il continue. Après, il y a un développement linéaire. Et la métaphysique est abandonnée pour toujours.
On va laisser ce sujet de côté, si vous voulez bien, messieurs. Georges Diébert, pour aller écouter cette méditation d'après Byron, Manfred, qu'est-ce que c'est ça, dites-moi ?
Eh bien, c'est une œuvre qui accompagne la naissance de la tragédie. Elle est de 72, donc on n'est plus dans l'adolescence. Il fait une entrée fracassante sur la scène littéraire et philosophique avec la naissance de la tragédie, et il compose en même temps cette Manfred méditation, qui est une œuvre intéressante, pas tellement musicalement en soi, vous allez le voir, mais parce qu'elle exprime de son revirement, son premier virement musical.
Ouais, c'est-à-dire ?
Ce jeune homme qui était un grand admirateur de Schumann, ouais, qui se livrait au piano avec délectation à la mélancolie, à la Sehnsucht, à travers...
Aux humeurs !
Oui, l'œuvre de Schumann, eh bien, se venge, là, il le dira, dans Ecce Homo, par rage contre ce douceâtre saxon, j'ai composé cette ouverture de Manfred dont Hans de Bülow, à qui il l'a soumise, parce qu'il ne manquait pas d'un certain culot, et surtout quand on connaissait Bülow qui était célèbre pour ses réparties cinglantes, il lui a envoyé cette œuvre, lequel lui a dit « Vous êtes égaré dans le royaume des sons
». Faites autre chose.
C'est un viol de terre. Et donc, dans cette œuvre, encore une fois, on voit un des premiers retournements de Nietzsche. Ouais. qui va se retourner plusieurs fois au cours de son existence.
C'est un homme de révolution.
Oui. Et vous allez entendre un accord qui ne vous échappera pas.
Ah oui. À quel moment, pardon, au début et à la fin?
Au début et à la fin.
D'accord. Qui ne sera pas schumannien pour autant.
Un apport qui ne s'est pas schumannien et qui traduit sa nouvelle allégeance. Ah.
Un extrait de la Manfred Méditation de Nietzsche, joué ici par John Bell Young et Thomas Cote. Et l'accord dont on parlait tout à l'heure, évidemment, on l'aura reconnu hein, au début et à la fin, c'est l'accord de Tristan.
Voilà. Hein,
pour bien dire, Georges Lébert, qu'on est passé de Schumann à Wagner, donc, comme vous nous le rappeliez, une sorte d'allégeance nouvelle. Hein.
Oui, depuis, puisque c'est de 72, ouais. Donc ça fait 3 ans, puisqu'il a fait la connaissance de Wagner en 69, et qu'ensuite, nommé professeur de philologie à Bâle, il va le fréquenter intimement pendant 3 ans jusqu'au départ de Wagner pour Bayreuth. Il est l'hôte privilégié à Tribschen ouais. du couple Wagner et il est fasciné. Pas seulement par le musicien. Bon, il a eu cette révélation de Tristan et des maîtres chanteurs. D'ailleurs, en des termes très significatifs et qui rappellent tout à fait la lettre de Baudelaire à Wagner et qu'on trouve chez tous les Wagneriens.
Ouais.
je suis rendu à moi-même. J'ai retrouvé ma patrie originelle. Souvenez-vous de la formule de Baudelaire. Cette musique m'a semblé la mienne. Je la reconnaissais comme tout homme reconnaît ce qu'il est destiné à aimer. On trouve presque les mêmes termes sous la plume de Nietzsche.
Il aura fait tous le même effet.
Donc il est fasciné par le musicien, mais aussi par l'homme. Par Wagner dans la relation quotidienne avec lui. Et puis Wagner, je ne veux pas faire de psychanalyse, mais Wagner est une figure paternelle. On dit que Nietzsche a perdu son père très jeune, et il y a là...
Il est né la même année.
Pas l'audio.
Oui, oui, oui.
Ah,
oui.
Il est né la même année de son père.
Donc il y a une emprise très très forte, et je pense que ça n'est pas étranger au fait qu'il arrête de composer. Quand l'intimité du génie, c'est dangereux. C'est dangereux parce que si vous avez une pulsion créatrice un peu faible, elle survit difficilement à la fréquentation.
À une telle proximité. D'un génie.
Au même moment, Hans de Bülow, il se trouve que je lisais hier des lettres de Bülow quand en 59, il réalise la réduction pour piano de Tristan. C'est-à-dire au fur et à mesure que Wagner envoie les actes. Et les lettres, il est stupéfait, abasourdi, écrasé. Et son talent créateur n'y survivra pas. Il avait un projet d'opéra, c'est terminé. Et je pense que Nietzsche...
Dans le même syndrome.
Nietzsche n'avait pas de projet d'opéra. Simplement parce qu'il avait déjà renoncé à la musique. Ce que nous avons entendu, c'est une reprise.
Il a joué devant Wagner. Il a joué devant Wagner. Absolument. Une nuit de la Saint-Sylvestre, Wagner a été très gentil. Lui a dit qu'il devait suivre sa pente philologique en suivant l'esprit de la musique.
Bien sûr, c'était un cadeau que Nietzsche avait fait dans les cercles intimes des Tribschen. Et c'était une reprise des choses qu'il avait déjà composées auparavant. Nietzsche avait déjà renoncé à la musique. Les rapports qu'il est lié à Wagner étaient, comme vous l'avez très bien dit, des natures personnelles, mais il y avait aussi un aspect... philosophique et d'action commune pour une régénération de la culture allemande. Et là, Nietzsche n'était pas les compétiteurs, les rivales de Wagner. Nietzsche était sur le même plan. Il était, pour ainsi dire, l'intellectuel de pointe. C'était l'idéologue de cette. C'était celui qui avait donné aussi une respectabilité académique au prix du mépris de ses confrères, parce que Nietzsche et Rode étaient deux jeunes professeurs, philologues, qui tout d'un coup mettent en danger leur carrière académique parce qu'ils épousent l'action culturelle wagnérienne. Et ils mettent au service leur science au service de cette cause wagnérienne. Et le résultat le plus frappant, c'est la naissance de la tragédie, qui est un mélange de philologie et propagande wagnérienne qui suit. C'est très intéressant, les philosophes ne veulent pas m'écouter quand je leur dis, mais il y a plusieurs personnes, pas seulement moi, qui disent que la naissance de la tragédie, il faut la comprendre à partir des écrits théoriques de Wagner.
Je vous remercie.
Par exemple, du Beethoven.
Oui, oui.
C'est la transposition, mais d'autres aussi.
Pas seulement.
Parce que, absolument.
Quand vous disiez tout à l'heure que j'étais plus wagnérien que
À certains moments dans le livre, je ne l'invente pas.
Mais parce que dans le procès fait à Wagner, ou quand on examine les deux, le couple Nietzsche-Wagner, généralement, les connaisseurs de Nietzsche, vous venez de le dire, ou les spécialistes de Nietzsche, font l'impasse sur l'œuvre de Wagner. D'abord, ils sont sourds, ils ont de la cire dans les oreilles, comme disait Nietzsche des professeurs, généralement. Deuxièmement,
on ne va pas se mettre
à lire les œuvres théoriques de Wagner, qui passent pour illisibles, etc. C'est pas du tout le cas. Et Nietzsche les a lus attentivement. Toutes les œuvres théoriques de Wagner qui étaient publiées dans les années 50, et en particulier L'Art et la Révolution, qui est un petit livre de Wagner qui est très intéressant, où celui-ci parle de la tragédie grecque et montre qu'elle est née de l'union de Dionysos et d'Apollon. Donc Wagner ne s'étend pas là-dessus, mais c'est dit. Et il montre très très bien, puisqu'il connaissait bien, là, il avait une très bonne culture hellénistique, Wagner, la renaissance possible de la tragédie, mais il est beaucoup plus raisonnable que son disciple qui va aller aux extrêmes. Lui, Wagner, ne pense pas que la musique des Grecs était celle que décrit Nietzsche, et en quoi il avait raison. C'était une musique beaucoup plus apollinienne et pas du tout dionysiaque. Nietzsche transpose Tristan dans la tragédie grecque. Il projette. Et ensuite, Wagner ne croit pas que l'on puisse restaurer la culture hellénique, la civilisation hellénique, Parce que celle-ci reposait sur l'esclavage.
Paulo Dorio, on sera d'accord là-dessus, c'est que ce qui les oppose, ce n'est pas seulement des questions personnelles, tous les deux. C'est des vraies questions philosophiques et profondes.
Et si vous lisez...
Oui, si on va chercher dans les personnels, on commence à parler des jalousies de Nietzsche, du fait qu'il était malade. On reste un peu dans ce qu'on a été dit dans le cercle wagnerien, à partir des causes humaines Wagner, suite à la publication des choses humaines trop humaines. Donc, la fable convenue, c'était que Nietzsche était malade, était jaloux de Wagner, etc. Bon, tout cela ne tient pas debout une seconde, même s'il y a toute une littérature là-dessus. Mais il faut voir les noyaux théoriques. De la différence. Et Nietzsche lui-même fait la différence entre son rapport personnel qu'il a toujours trouvé magnifique avec un ami. Il n'a jamais autant ri qu'avec lui, il dit dans des lettres.
Il y avait une vraie complicité hein, pendant quelques années.
Il y avait une vraie complicité,
en fait,
vraiment. Et c'est pour ça que l'éloignement.
Selon mon cœur.
C'est pour ça que l'éloignement est très douloureux. C'est l'éloignement qui s'accomplit à Sorrente. Parce qu'à Sorrente, c'est la dernière fois que Nietzsche Wagner se rencontre personnellement. Et après, il n'y a pas de mauvais mots qui sont prononcés. Il n'y a pas. Quand ils s'attaquent, par exemple, l'un dans « Choses humaines, trop humaines », l'autre dans « Public et popularité », ils s'attaquent sans se nommer. Donc, il y a vraiment une certaine forme de respect pour la grandeur de l'un et de l'autre. Mais il y avait un problème théorique, de fond, qui résidait surtout dans la conception du christianisme. Nietzsche était athée et il avait aimé les Wagner athées, Feuerbachien et révolutionnaire de l'œuvre d'art de la Révolution, qui, après, avait pris toute une autre direction. Il avait rencontré Schopenhauer et c'était complètement métaphysisé, si on peut dire comme ça. Il commençait, si vous voulez, c'est une question peut-être des recherches, on pourrait l'interpréter comme une question de la quête du bonheur. Selon Wagner et selon le Nietzsche de la naissance de la tragédie qui les suit, le bonheur est dans une dimension métaphysique. Il faut les poursuivre, il faut suivre les génies. Parce que le génie artistique est celui qui a vu la réalité. Il a vu dans un sommeil profond, il est dit Wagner dans les Beethoven, il a vu comme une vision de l'un originaire, il dit Nietzsche dans la naissance de la tragédie. Il peut communiquer cette image de la réalité aux autres à travers un deuxième rêve, les rêves du matin, ou à travers les spectacles du drame. Et les autres doivent suivre les génies. Et en suivant les génies, ils font le bonheur individuel, le bonheur de la société et le bonheur même de l'univers.
Et Nietzsche ne peut pas être là-dedans, lui.
Pardon ?
Nietzsche ne peut pas être là-dedans, lui.
Nietzsche était là-dedans, dans la naissance de la tragédie. Puis à un certain moment, il se rend compte que là, c'était une forme de narcose. C'est-à-dire, au lieu de résoudre les problèmes de la réalité, de chercher le bonheur en changeant les conditions matérielles de vie, on laisse tout comme il est. Et on essaye de s'évader pour quelques instants, pour 5 ou 6 heures, là, dans les cas d'un drame wagnérien. Et donc, si vous prenez Richard Wagner Bayreuth, qui est le dernier livre wagnérien de Nietzsche, mais c'est quelque chose qui propose une réforme du wagnérisme. C'est le dernier essai de Nietzsche pour dire à Wagner, reviens en arrière.
Donc il n'a pas totalement coupé, on va dire. En tout cas, il y a cette ouverture-là qui reste possible. Si vous voulez bien, on va écouter Nietzsche au piano. Enfin, pas lui-même, bien évidemment. De Mazurka et Xardas, qui sont en fait des danses polonaises. On se rappellera qu'il y a une sorte de rêve polonais aussi chez Nietzsche, qui est lié à son père, bien sûr.
Thank you.
Deux danses polonaises de Nietzsche jouées au piano par John Bell Young. On va venir à vous, Paolo Diorio, et plus précisément à ce voyage de Nietzsche à Sorrente qui nous est arrivé il y a peu aux éditions CNRS. Peut-être moins pour parler des significations éventuelles, mais déjà pour remettre les choses en place historiquement. 1876, on est donc à la fin de ce grand parcours wagnérien qui va durer plusieurs années de Nietzsche et de ce véritable compagnonnage entre les deux. C'est une certaine Malvida von Meisenburg que les Nietzschéens connaissent bien, qui à un certain moment propose à Nietzsche de l'accompagner en Italie, d'accompagner un jeune étudiant pour s'installer là-bas et faire quoi en fait? Quel est leur projet?
Au début, l'idée c'était de soigner ces jeunes étudiants qui étaient malades. Et Nietzsche aussi avait commencé les premiers symptômes de son mal. Et donc il demande une année de congé à l'université et ils partent au sud. Tous ensemble, il y a encore un philosophe positiviste et juif. Paul Rey.
Qu'on connaît bien parce qu'il y a une grande correspondance avec Nietzsche aussi.
Oui,
hein.
Absolument. Et donc, il part à Sorrente. Il s'installe à côté des Wagner, qui était à l'hôtel Victoria, mais qui reste seulement pour la première partie de cette période. Et il forme une sorte de communauté idéale. Il l'appelle les couvents des esprits libres, l'école des éducateurs. Et ils font des promenades. Ils lisent, ils parlent, ils rient beaucoup. Et ils lisent toute une série de livres. Nous avons des témoignages, donc de ces soirées de lecture. C'est très intéressant. Et là, Nietzsche accomplit sa métamorphose. Il commence à écrire le premier aphorisme de sa vie. Et l'autre philosophe, Paul Rey, écrit un livre sur l'origine des sentiments amoureux. La comtesse Malvida von Meisenburg écrit deux romans. Mm-hmm. L'étudiant Brenner écrit un conte. Voilà. Et
C'est une sorte de communauté en fait artistique, une communauté de pensée aussi.
Communauté de pensée.
Qui va durer combien de mois d'ailleurs? Quelques 6 mois, 8 mois, c'est ça?
Ça dure 9 mois.
Ouais. Ouais.
Et après, se joignent aussi d'autres amis pour des périodes plus courtes. Et moi, j'ai saisi l'occasion de raconter ces voyages parce que ces voyages s'accompagnent à un autre voyage intérieur que Nietzsche accomplit en même temps, c'est-à-dire ce retour dont on parlait tout à l'heure, de retour à lui-même, à sa véritable philosophie. Et donc, on avait l'occasion de raconter l'un voyage à côté de l'autre, à travers l'autre.
C'est-à-dire qu'il y a le voyage physique d'un côté, puis il y a le voyage spirituel et intérieur.
Le voyage, intérieur. Ouais. Et alors, pour les voyages physiques, nous n'avons pas de témoignages directs de Nietzsche, mais donc il m'a fallu retrouver les témoignages de ses amis qui écrivaient des lettres, des mémoires, etc. Parce que Nietzsche, il était malade, il écrivait très peu, même s'il lisait beaucoup. Et donc, la première partie du livre essaye de raconter, de mettre les lecteurs dans cet esprit de la communauté des esprits libres de Sorrente. Et après, dans une deuxième partie plus philosophique, j'essaye de comprendre quelles sont les conséquences de ces voyages pour l'évolution de la philosophie de Nietzsche.
Et d'ailleurs, vous mettez en perspective, on va dire, surtout Zarathoustra, parce que j'ai l'impression qu'en fait, vous parlez des chameaux qu'il croise à Pise, au moment d'arriver à Sorrente, et vous parlez des cloches de Gênes, et tout ça, vous le mettez en relation pour qu'au bout du compte, ça aboutisse à Zarathoustra.
Oui, surtout la question des cloches de Gênes est quelque chose d'assez étonnant, parce que c'est une note que Nietzsche écrit dans un cahier, dans un carnet, tout petit carnet, à Gênes, en rentrant à Bâle, des Sorrentes.
À la fin du séjour, donc.
À la fin du séjour, il s'arrête à Gênes, sa santé n'a pas amélioré, il est au bord du suicide, il pense sérieusement de se suicider sur les bateaux, et puis finalement il ne le fait pas. Et il écrit une petite phrase dans un cahier. Et comme souvent ça arrive chez Nietzsche, c'est vraiment une manière d'écrire qu'il a. Il condense dans quelques mots, il arrive à condenser dans quelques mots toute une tradition littéraire et philosophique. Et là, je n'ai pas le temps de les détailler ici, c'est le 5e chapitre du livre. Mais on retrouve vraiment des témoignages. Donc cette brève note parle de la valeur de toutes choses. Et elle dit que les choses du monde ne sont pas dignes d'un grand intérêt. Et pourtant, mais il ajoute « et pourtant ». Et en essayant de suivre la manière dans laquelle Nietzsche a retravaillé cette note, on arrive jusqu'au Zarathoustra, comme vous le disiez.
Et à propos d'ailleurs, à partir de phénomènes sonores qui en effet
à la cloche des minuit des Zarathoustra, qui est une cloche du nihilisme, c'est la personnification du nihilisme, la version sonore du nihilisme, qui se réclame donc aussi à différentes cloches que nous trouvons dans la tradition allemande, à partir du Faust des Goethe. Quand il dit « il faut arrêter l'instant », il y a une cloche qui sonne à ce moment-là dans les Faust, où on les trouve dans Schiller, on les trouve dans toute une tradition. Et Nietzsche lit cette tradition du nihilisme à Platon, au mot de Platon sur le manque des valeurs des choses humaines, mais en même temps, il essaye d'insérer dans cette cloche du nihilisme des minuit la plus grande force de l'affirmation de la vie qu'il trouve dans les midis.
Alors le midi, justement, on va y rester pour une sorte de raccourci. Georges Lieber, parce que vous avez souhaité qu'on termine musicalement cette invocation de Nietzsche, non pas seulement avec Nietzsche compositeur, mais avec Carmen.
Oui.
Parce que là, on y a un temps plein dans le midi, justement, hein, même avec la mort de Carmen. Ouais, on va écouter ça.
Laisse-moi,
c'est ton
nom
et la mort.
Laisse-moi.
Sur mon âme, tu ne passeras pas, Carmen. C'est moi qui t'y suis là.
Laisse-moi, donc j'en sais, je ne te suivrai pas.
Tu vas le trouver, qui t'aime.
Je l'aime, et devant l'amour même, je répéterai que je l'aime.
Thank you.
Le final de Carmen de Georges Bizet, Anna Caterina Antonacci, Jonas Kaufmann, enregistré au Royal Opera House de Londres sous la direction d'Antonio Pappano. C'est du DVD, mais ça s'écoute aussi. Comme vous l'aurez bien remarqué, les références des livres de mes invités aujourd'hui, Georges Lieber, Nietzsche et la musique, je vous le rappelle, vient de reparaître aux Presses universitaires de France. Et le voyage de Nietzsche à Sorrente de Paolo Di Orio, ça c'est pour les éditions du CNRS. David Grimal, on va changer complètement de sujet en parlant de Jean-Sébastien Bach ici, de vos prochains concerts le concernant. Mais auparavant, je voudrais qu'on dise deux mots comme des dissonances. Ça continue encore les dissonances et ça prend de l'ampleur cet orchestre, je crois. Hein.
Ça continue, c'est nos David Bündler à nous.
Oui, notre compagnon de David.
À Sorrente, c'est pareil, on se réunit dans l'espoir de faire de la musique ensemble. Ouais.
C'est vrai qu'il y a le côté phalanstère aussi, cette idée-là, peut-être, hein, pour musiciens.
Un petit peu de rester justement dans cette aspiration, peut-être nietzschéenne, mais pas nihiliste en tout cas.
Non, certainement pas.
Et donc, on vient de terminer une série là où on a joué le concerto de Brahms. Enfin, j'ai eu l'immense plaisir de jouer le concerto de Brahms pour violon sans chef d'orchestre. Et donc, en travaillant comme si ça avait été un quatuor de Brahms ou un quintet. Et c'était une expérience absolument merveilleuse et un disque. Paraîtra bientôt avec ça, puis on va faire...
Mais c'est pas évident, pardon, parce que le concerto de Brahms, pour le coup, s'il y a une œuvre dont on se dit qu'il faut vraiment un chef et vraiment un soliste et que les deux se battent, c'est celle-là.
Eh ben, on s'est battu sans chef. Ah. Et en fait, c'était tout à fait... C'était vraiment merveilleux. Mais il faut dire que j'ai la chance aussi, dans les dissonances, d'avoir avec moi des musiciens fantastiques et qui trouvent un plaisir particulier à jouer ce jeu, qui est un autre jeu. Et là, on va faire l'héroïque bientôt, puis la quatrième de Brahms. Enfin, on continue, on traverse les marées.
Il y a des choses particulières, c'est que vous jouez dans des contextes, on va dire, très différents et volontairement très différents. C'est toujours évidemment du concert, c'est toujours évidemment devant du public que ça se fait, mais le paiement n'est pas obligatoire toujours. Et il y a la volonté de jouer aussi pour des publics qui ne sont pas nécessairement ceux du récital ou de la musique symphonique.
Alors il y a deux choses différentes. Les dissonances, les musiciens sont payés comme au tarif Syndéac, ça c'est les choses les plus romantiques de notre époque. Où Steve Jobs a remplacé Richard Wagner. Et il y a l'autre saison. L'autre saison, c'est une saison qui a été créée, en fait, qui existe depuis un an, mais ça fait 8 ans qu'on donne des concerts pour les sans-abri dans une église à Paris. Et c'est un peu sous l'égide des dissonances. Mais ce ne sont pas forcément les dissonances qui s'y produisent. Mmh. Mais c'est le même état d'esprit. C'est-à-dire aussi que la musique, non seulement retrouve une forme de liberté lorsqu'on la joue, mais à travers une rigueur, c'est une liberté extrêmement surveillée, et également qu'elle ne soit pas un marqueur social. Ouais. Et donc, il y a l'idée aussi de la partager avec des gens qui n'y ont jamais accès, et aussi de récolter des fonds pour aider des projets spécifiques et non pas participer à une charité qui maintient aussi des gens dans une misère absolue. Voilà. Enfin, on ne résout pas les problèmes du monde, mais on essaye de faire des choses qui ont du sens.
Il y a un peu d'idéalisme là-dedans. J'ai l'impression, comme que tout à l'heure, on parlait de personnages, Wagner, Nietzsche, qui étaient très idéalistes aujourd'hui aussi, alors que l'époque, la nôtre, ne l'est plus tellement.
Je ne sais pas si c'est l'idéalisme ou ne pas renoncer à ses idéaux. Ce n'est pas forcément l'idéalisme.
Ouais. Simplement tenir. Bach, Jean-Sébastien Bach, qui sera donc au cœur de ce concert que vous donnerez, David Grimal, à la Salle Diard à Paris. Ce sera le 16 novembre, dans le cadre des concerts Cantabile. Du Bach, vous serez tout seul, mais c'est important pour vous aussi de ne pas faire en sorte qu'il y ait seulement ce grand machin de l'histoire de la musique auquel on ne touche quasiment plus, mais que miroite autour d'autres choses.
Oui, c'est un concert. Alors, c'est une nouvelle série de concerts. C'est la première fois que j'y participe et il faut toujours saluer la naissance d'une série de concerts, je trouve, parce que ça donne aussi de l'espoir. Et puis, ils ont une programmation très sympathique. À preuve, j'y vais. Et dans un théâtre, apparemment, qui sonne très bien, que moi, je ne connais pas, mais qui a déjà une histoire avec la musique. Et c'est un programme alors qui mêle Bach avec des créations, des œuvres qui ont été écrites pour moi, soit par Brice Pauset, par Thierry Esquèche ou d'autres. Et puis également la sonate de Bartok pour violon seul ou une sonate d'Isaïe. Enfin, disons que je remets le violon seul plutôt au centre du débat et l'interrogation de ce qu'on peut faire tout seul avec 4 cordes. Et c'est fascinant, c'est assez génial de mélanger les esthétiques.
Ouais.
Et voilà, c'est...
Mais c'est quand même dur parce que j'imagine tout seul sur scène pendant 1h30, même s'il y a l'entracte au milieu. Il faut quand même tenir.
Non, je crois que ça va être un concert sans entracte à peu près de 1h10, 1h20.
Ouais, quand même.
Oui, oui, bah, c'est un exercice particulier, c'est, ça maintient la forme.
Ah ouais, ça maintient éveillé, ça ouais, aussi. Exactement. Donc il y aura quoi, du Bach, vous me dites bien, sonate et partita, c'est ça?
Il y aura des extraits des sonates et partita. En gros, l'arche sera entre la chaconne de Bach et la chaconne de Bartok. Et il y aura une pièce écrite par Thierry Esquèche sur un choral de Bach qui s'appelle Nun Comm. Pièce extrêmement virtuose et polyphonique qui nous rappelle que Thierry est un organiste, improvisateur génial. Il a voulu mettre l'orgue dans le violon, un peu comme Bach. Et puis aussi des...
A priori, il ne rentre pas naturellement, hein, quand
voilà.
même,
avec
pas
et les dimensions. Et puis Brice Pauzet qui avait écrit des pièces dans une contra partita que j'avais enregistrée il y a quelques années. Et puis Victor Kissin aussi, un compositeur russe exilé en Belgique, qui a écrit une très très belle pièce qui s'appelle Stillleben. Enfin bref, un
tout
parcours
ça,
comme
tout ça dans la perspective Bach.
Tout ça autour de Bach.
Ouais. Ce sera David Grimal en concert à la Salle Diard à Paris, 16 novembre, on vous le rappelle, autour de Jean-Sébastien. Je ne sais pas s'il y aura la première partita, mais c'est elle qui suit. Ce double de la sarabande de la première partita de Jean-Sébastien Bach était joué par David Grimal sur son intégrale des sonates et partitas paru il y a quelques années chez Ambroisie. C'est bien cela. Et qu'est-ce qu'il nous disait, David? C'est très charmant ce qu'on vient d'entendre.
Non, c'est tendre et un peu mélancolique. Oui. Je suis frappé parce que je ne passe pas mon temps à réécouter mes disques. Et donc,
semble loin.
Entre le, oui, oui. Enfin, je semble loin à moi-même, comme aurait dit Nietzsche à une autre époque.
Il le fait plus comme ça maintenant. C'était très bien quand même, ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas. Il est 13h30. Voici les dépêches notes. Et Rodolphe Bonneau-Boulmier, bonjour.
Bonjour Lionel. Bonjour à tous. Suite à la tempête américaine, de nombreuses salles de concert sont endommagées. Le Carnegie Hall, par communiqué de presse, a fait savoir que jusqu'à nouvel ordre, la salle annulait tous ses concerts. L'association de presse LAP, agence de presse mondiale basée aux États-Unis, va présenter ses excuses car elle a annoncé hier la dissolution de l'orchestre d'Iran alors qu'il s'agit de l'orchestre de Téhéran, fondé en 1930. Celui d'Iran a été fondé en 1999 et est toujours en activité. Une information que nous avons reprise dans les dépêches notes, c'est un musicien de l'orchestre qui a relevé l'erreur sur son blog. On attend le démenti de l'association de presse et la confirmation de l'arrêt de l'orchestre symphonique de Téhéran. Et puis après vérification, il semblerait d'ailleurs qu'il n'existe pas d'orchestre symphonique d'Iran, mais un orchestre de musique populaire en Iran. Chaque nouvelle qui nous arrive de la FNAC semble toujours plus compromettante pour l'enseigne culturelle. La FNAC va abandonner le marché de la musique en ligne et rediriger ses acheteurs vers le service d'iTunes d'Apple. À partir du 1er janvier prochain, la FNAC quitte petit à petit la culture. Elle va bientôt ouvrir des rayons électroménagers, des produits pour les enfants et va laisser le groupe Disney ouvrir des emplacements dans ses magasins. La Roumanie, en temps de crise, continue son grand festival George Enescu. Hier, lors de la conférence de presse, on a appris que Daniel Barenboim, Antonio Papano, Maris Jansen, Radu Lupu et les sœurs Labeck seront à l'honneur de la prochaine édition. Roumanie à nouveau, au cœur de la Transylvanie, dans les églises médiévales, des dizaines d'orgues historiques sont menacées par le temps et les rongeurs. Une Suissesse, Barbara Dutli, aidée d'artisans roumains, a décidé de les restaurer. Ces orgues ont une valeur extraordinaire en Europe, mais personne ne s'en rendait plus compte. Durant le communisme, le métier de restaurateur a disparu. Nous avons voulu former une génération capable de construire et restaurer les orgues afin que la Roumanie n'ait plus besoin des étrangers pour cela, précise donc Barbara Dutli. Et puis dans le Figaro de ce jour, pleine page sur Lang Lang, un musicien assagi selon le journaliste Thierry Hillerito. Il a 30 ans cette année et il compte le faire savoir. Le pianiste qui vit aujourd'hui à New York est serein face aux critiques qui adorent le haïr. Et lorsqu'on lui pose la question sur le secret de sa réussite, il répond « des fraises et du chocolat, voilà l'unique secret ».
Merci Rodolphe. Lang Lang qui mange que des fraises et du chocolat. David Grimal, non, c'est non, ça vous inspire
un peu. Des fraises et du chocolat.
Oui, non, je sais pas. Lang Lang,
non, mais je sais pas. Quand on a un milliard de Chinois derrière, peut-être que les fraises et le chocolat, ça marche.
Ça peut suffire en tout cas. Georges Liébert, la FNAC qui sortira un peu de la culture, ça vous inspire quoi?
Un peu de mélancolie. Mais ça me paraissait prévisible. Ouais. Donc vous aviez vu la givarisation progressive des rayons disques classiques, par exemple. Au fil des années.
Ouais, c'est juste un peu logique.
La disparition des vendeurs connaisseurs. Ouais. Il en reste encore quelques-uns avec lesquels il est agréable de discuter, mais on pouvait prévoir ce crépuscule.
Ouais. Peut-être que la culture était déjà sortie de la FNAC, en fait. On ne s'en était pas rendu compte.
Ouais. C'est juste que là, maintenant, c'est clair. Paolo Diorio, je ne vous ai même pas posé la question si vous étiez musicien d'une façon ou d'une autre, mais oui, je crois carrément, en plus.
Oui, j'ai une formation de musicien. J'ai étudié au conservatoire des Luc. La clarinette, et puis 5 années de piano et composition. Ouais. Mais après, bon, la philosophie, j'ai suivi une autre déesse, la philosophie, et voilà. Mais je regrette un peu, parce que quand je rencontre les musiciens, je vois toujours qu'ils sont heureux, alors que les philosophes sont un peu plus tristes, normalement.
Ah oui, oui.
Mais bon, oui, j'ai toujours cette impression. Je me dis peut-être que j'ai mal fait. Mais...
Enfin. Parce que les musiciens, vous les voyez à la radio, ils sont contents de venir, c'est ça?
Peut-être.
Le reste du temps, ils sont tristes. Hein.
Quand on voit... Lionel, qu'il nous met en joie.
Voilà, ça doit être ça.
Non,
la musique, ça rend gay quand même dans l'ensemble de vie, non? Enfin, ça donne du bonheur quand on l'a fait.
Ah, ben bah, jouer, c'est merveilleux. Voilà. Après, les chemins, les voies du Seigneur sont impénétrables.
Ah oui, hein, et les chemins du bonheur le sont aussi.
Exactement. Ouais.
D'autres concerts, dont un, votre sœur, je ne savais même pas que vous aviez une sœur, David, et qu'elle était musicienne en plus.
Ah oui, j'ai une petite sœur qui joue du saxophone, qui joue du jazz, qui est une extraordinaire musicienne de jazz.
Ah bon?
Absolument.
Oui. Elle tourne beaucoup dans les clubs, des choses comme ça?
Elle tourne même dans le monde entier, elle tourne.
Ah bon? Elle s'appelle Grimal aussi? Ou
elle s'appelle Alexandra Grimal.
D'accord. Ben moi, je ne connais pas le monde du jazz, mais je la connaîtrais certainement si c'était le cas. Et c'est sacré monde dans la famille, entre le grand-père, le père, les enfants et même les deux, hein, dis donc. Hein. Il y a des dons parfois. Alors, vous serez ensemble d'ailleurs pour jouer à l'atelier du plateau. Ce sera le 18 novembre. Et vous faites quoi alors? De l'improvisation?
Ça s'appelle Liberté Magnétique. Alors, on ne sait pas trop ce que c'est.
Ah, vous ne savez pas vous-même?
Mais c'est-à-dire qu'on. Voilà, c'est ce qui peut se passer dans l'air entre la musique écrite et la musique improvisée. Mmh. Les créations contemporaines, musique improvisée. Voilà, on a fait une petite chose comme ça qui avait été sur Arte Live Web un peu avec mon quatuor. Et puis elle et un jeune guitariste, Nelson Veras. Et c'était autour de Janáček avec des improvisations. Et c'était assez intéressant.
Vous essayez de dialoguer ou c'est simplement vous mettez des choses les unes à côté des autres? On ne sait pas à l'avance.
On ne sait pas.
On verra. À voir donc le 18 novembre à l'atelier du plateau et puis le 5 décembre. Vous parliez votre quatuor, eh bien justement formation musique de chambre. Ce sera à l'Opéra Comique. Vous invitez quelques amis pour jouer ensemble.
Voilà, quelques amis pour faire de la musique de chambre avec Emmanuel Strausser, avec François Salles, Pierre Fouchenray et d'autres. Et on se retrouve pour faire de la musique française 19e, début 20e. Ouais. Là, nous sommes dans les ors de l'opéra.
Si. Donc là, vous saurez ce que vous faites, hein, évidemment, à l'avance.
Ah bon, on ne sait jamais vraiment comment ça va se passer.
Jusqu'au dernier moment.
Ah ouais. On espère.
Ce sera le 5 décembre à l'Opéra Comique. Merci à tous les trois, David Grimal, Georges Libert, Paolo Di Orio, d'avoir participé à cette émission que nous allons refermer justement avec les dissonances et les quais de saison. Oui, c'est connu, ça fait toujours du bien. Mouvement du printemps d'Antonio Vivaldi, extrait des quatre saisons, bien évidemment, mais était-il utile de le préciser? C'était David Grimal avec les dissonances, qui est enregistré en concert à Dijon et disponible sur un disque Aparté. Cette émission a été préparée par Anne Latilleul, réalisée par Céline Parfenoff, avec aujourd'hui Mathieu Tourin et Michael Fontanias. Très bonne journée à tous à l'écoute de France Musique.